L'évangile de ce jour nous introduit donc dans la prière de Jésus, dans l'intimité de cette relation entre Jésus et son Père. Et c'est beau. Alors quelquefois, il y a des gens qui nous disent « Mais moi, je ne sais pas prier. » Et nous avons un beau modèle de prière. Et ce qui est beau, c'est que dans sa prière, Jésus prie pour nous. Il prie pour ses disciples, il intercède pour nous auprès du Père. Alors cette prière a été prononcée au cours de la dernière scène, c'est-à-dire avant l'arrestation de Jésus à Gethsémani. Mais nous savons que Jésus, monté au ciel, ne cesse d'intercéder pour ses disciples. En quelque sorte, Jésus nous a pris avec lui et nous présente à Dieu, son Père, comme les fils et les filles que nous sommes en lui, le Fils unique. Jésus demande à Dieu, son Père et notre Père, de nous garder dans l'unité, de nous protéger de l'esprit du monde et du mauvais, et enfin de nous sanctifier dans la vérité. Jésus prie donc pour l'unité de ses disciples. De fait, en lui, nous sommes devenus un, comme le Père et le Fils sont un. À la fin du chapitre 11 de Saint Jean, l'évangéliste nous dit que Jésus a rassemblé dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Il prie pour que le Père nous maintienne dans cette unité qui est une des caractéristiques de l'Église. Dans le credo, nous professons notre foi en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Et comme le Concile a repris une formule de saint Cyprien de Carthage pour dire que l'Église tire son unité de l'unité du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire que donc, notre unité, elle vient d'en haut, elle se fait par le haut. Dans la mesure où nous avons tous été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, eh bien nous ne faisons qu'un en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Et cette unité se manifeste par l'unité de la foi, dont nous proclamons le symbole chaque dimanche, le credo. Et donc, et justement, si on l'appelle symbole, c'est parce qu'il est notre signe de reconnaissance. Nous nous retrouvons dans cette même foi. Mais aussi, elle se manifeste dans l'unité de l'espérance, puisque nous tendons tous à un même avenir, qui est la Jérusalem céleste. Et justement, dans notre société qui n'a pas d'avenir ou qui a peur de l'avenir, nous avons à témoigner de l'espérance. Nous avons un avenir. Et enfin, bien sûr, dans l'unité de la charité que nous avons à déployer entre nous. Comme le dit la deuxième lecture, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et en nous, son amour atteint la perfection. Dieu est amour, et Jésus, en se livrant sur la croix, a manifesté la réalité de cet amour de Dieu pour nous. Ce n'est pas simplement des belles paroles, c'est du concret. Nul n'a plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et donc, il nous a manifesté la réalité de cet amour et la profondeur de cet amour pour tout être humain. Et il nous a fait don de l'amour divin pour que nous apprenions à nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Et donc l'unité est le fruit de la charité divine reçue au baptême. C'est pourquoi l'amour mutuel, la charité fraternelle, est le signe par excellence des chrétiens. Elle témoigne que Dieu demeure en nous, elle révèle le visage de Dieu. Alors quelquefois, nous avons du travail à faire encore pour que cette charité se grandisse, se développe. Et donc, le chrétien est membre d'un corps. Il apprend à tenir sa place dans le corps en se mettant au service des autres membres du corps. Vivre la foi chrétienne seule est un non-sens, une contradiction en soi. Chrétien veut dire frère, sœur, communauté. Chrétien veut dire église. Et Jésus révèle, en quelque sorte, à travers cela, l'être humain créé à l'image de Dieu, qui n'a pas été créé solitude, mais qui a été créé comme être de relation. Il n'est pleinement lui-même que dans la relation avec les autres, dans une communion d'amour. L'être humain est fait pour se donner à l'autre, pour se donner aux autres. Alors le mariage est la vocation première de l'être humain. Il établit entre les époux une communion d'amour qui reflète quelque chose de la communion trinitaire entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Mais le mariage n'est pas la seule vocation de l'être humain. La vie fraternelle, la vie communautaire correspond aussi à cette vocation humaine et au projet de Dieu pour l'humanité. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. La division est le fruit de l'action du mauvais, le diviseur, le diable, c'est ça que ça veut dire, le diable, le diviseur. Et par sa mort et sa résurrection, le Christ nous a libérés de l'esclavage du mauvais. Il nous a introduits dans la liberté des enfants de Dieu. Et donc les baptisés ne sont plus sous le joug du prince des ténèbres. Ils sont dans le monde, mais par sa parole, Jésus nous a tirés du monde. Nous ne sommes plus de ce monde, c'est-à-dire que nous ne cherchons plus dans les réalités d'ici-bas le sens de notre vie et notre plénitude. On voit aujourd'hui beaucoup autour de nous la quête de sens très forte. Et on voit bien que ce monde ne peut pas satisfaire cette quête de sens. Dieu seul peut la satisfaire. Alors évidemment, cela suppose pour nous, pour rester libres vis-à-vis du mauvais, eh bien d'entretenir notre relation au Christ et à l'Église, et de ne pas céder à la tentation du péché, sinon le mauvais finit par reprendre prise en nous, et nous risquons de retomber sous son joug. C'est pourquoi Jésus nous a appris à demander au Père de nous délivrer du mal. Délivre-nous du mal, dit la prière, termine la prière du Notre Père. Et lui-même intercède pour que nous ne retombions pas dans l'esclavage du péché et du mauvais. Il nous a fait entrer dans une vie nouvelle, à nous de savoir la déployer, cette vie nouvelle, en comptant sur sa grâce, en étant fidèles à sa parole et en restant à distance de l'esprit du monde. Mais si nous tombons à cause de nos péchés, Jésus nous invite à nous laisser réconcilier avec le Père. Enfin, Jésus demande au Père de nous sanctifier dans la vérité, de nous consacrer pour la mission qu'il nous a confiée. La sainteté est ce que Jésus demande à chacun d'entre nous, mais elle nous a été donnée en germe au baptême. Nous avons tout reçu au baptême, mais tout est à mettre en œuvre ensuite, tout est à déployer. Et nous savons que ce n'est pas toujours facile ce chemin. Un chrétien normal est donc un saint, une personne transformée par la grâce divine. Jésus demande que la parole de Dieu, que le glaive de la parole, vienne éliminer en nous ce qui n'est pas de Dieu, vienne éliminer tout germe de mensonge, et qu'elle sanctifie notre être pour que nous devenions une offrande pure à la gloire de Dieu. La parole divine et l'Esprit Saint ont une action transformante en nous, pour que nous devenions de vrais prophètes dans le monde, témoins de la parole divine puissante et efficace. En cette neuvaine préparatoire à la Pentecôte, nous demandons à l'Esprit Saint de renouveler en nous ses dons, de continuer à nous sanctifier, de nourrir en nous le feu intérieur de la charité, de fortifier en nous la communion fraternelle, de faire de nous des témoins humbles et joyeux de la bonne nouvelle du Christ. Alors, la sonnerie des cloches prendra tout son sens. Alors, non seulement elle sera un rite sonore, mais elle sera l'annonce d'une bonne nouvelle pour tous. Et les curieux pourront vérifier cette bonne nouvelle en voyant Dieu à travers la vitalité de la communauté chrétienne, à travers son unité, à travers sa charité fraternelle, à travers sa sainteté et son esprit de service. C'est ce que nous demandons à l'Esprit Saint. Vous avez un vaste quartier. Les cloches ne rejoignent pas, je pense, l'ensemble du quartier, mais elles retentissent pour rappeler la présence de Dieu, pour rappeler qu'il y a une communauté chrétienne ici et que cette communauté chrétienne, eh bien, elle essaye de faire du bien autour d'elle. Amen.